C'est un grand plaisir de revenir ici. J'étais là il y a quelques années pour un colloque sur l'anthropologie, revenir ici à Cerisy. Merci aussi à Denis Martouzet de m'avoir proposé de venir réfléchir avec vous sur la notion d'ambiance, de tonalité affective. Vous allez voir que c'est un élément important dans ce que j'ai préparé. Alors, donc, le titre que j'ai conçu pour mon intervention, c'est justement « Les tonalités affectives dans la perception du milieu ambiant en architecture et en urbanisme ». Et puis, eh bien, je vais perpétuer la tradition qui a été commencée ce matin par le premier orateur. Je vais honorer le chiffre 3, puisque je parlerai de trois auteurs, Bolnau, Bachelard, Zumthor. Et donc, Bolnau, c'est un phénoménologue, un psychologue phénoménologue, qui s'est intéressé à cette notion de tonalité affective, et même qui a essayé de développer le concept de tonalité affective. Bachelard, eh bien, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, c'est un épistémologue, mais qui s'est aussi beaucoup intéressé à la littérature, et dans ce travail qu'il a amené, en gros, de la science à la poésie, eh bien, il a rencontré la question de l'espace. Et il a introduit une nuance qui me paraît tout à fait essentielle, tout à fait intéressante, stimulante, qui est la nuance entre l'espace et le lieu. Donc là aussi, j'y reviendrai. Et puis Zumthor. Alors Zumthor, c'est un architecte contemporain, mais c'est un architecte qui a la particularité de s'intéresser tout particulièrement, de fonder son travail sur l'analyse des ambiances et de chercher à générer des ambiances, de chercher à comprendre comment fonctionnent les ambiances dans lesquelles nous évoluons, que fabriquent depuis toujours, bien sûr, les architectes, les urbanistes, mais sans toujours comprendre la syntaxe qui est implicite derrière ce qu'ils font. Donc voilà ce qu'il a essayé de faire. Alors donc, je vais partir de ces trois auteurs. Je ne ferai pas une présentation des auteurs en question, d'abord parce qu'ils sont connus, aussi parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, et puis pour une raison qui est que, au fond, je m'intéresse moins aux auteurs qu'à une des idées qu'ils ont formulées. Chacun d'eux a formulé une idée qui me paraît utile à retenir pour un débat sur ce qu'est le rapport affectif au lieu. Alors, je les prendrai dans un ordre un petit peu différent de l'ordre chronologique dans lequel ils se sont présentés, en fait, dans l'ordre que j'ai indiqué à l'instant. Je parlerai d'abord de Bachelard et de sa distinction entre espace et lieu, ensuite de Bolnau et de sa notion de tonalité affective, et puis finalement de Zumthor. Alors, le titre que les organisateurs ont choisi pour ce colloque est « Saisir le rapport affectif au lieu ». Et il y a quelque chose qui m'intrigue dans ce titre. Pourquoi ? Parce que le rapport que nous pouvons avoir à un lieu, nous le sentons avant de le saisir. Saisir quelque chose, en effet, ça signifie l'attraper, le prendre, s'en emparer. Mais pour s'emparer de quelque chose, encore faut-il avoir une certaine distance à l'égard de cette chose. Or, le rapport au lieu ne nous est jamais donné avec une distance qui nous permettrait de l'attraper. Car nous sommes constamment, et même nécessairement par notre nature d'être vivant, immergés dans un lieu. Et donc, dans des rapports multiples à ce lieu. Rapport affectif, bien sûr, mais aussi pragmatique, mémoriel, symbolique, etc. Sentir le rapport au lieu où nous nous trouvons est une chose que nous faisons, en fait, sans même y penser, mais justement parce que nous le faisons sans y penser, c'est-à-dire sans distance, sans critique, sans recul, saisir le rapport à ce lieu implique de réaliser une opération qui, elle, n'est pas spontanée et qui est au contraire ce que nous faisons lorsque nous essayons de comprendre ce qui est en jeu dans l'acte de sentir les lieux dans lesquels nous évoluons. Donc saisir le rapport affectif au lieu, cela semble vouloir dire, en tout cas c'est comme ça que j'ai pris la question, tenter d'élucider, de produire un peu de lucidité sur cet acte de sentir dans lequel nous sommes constamment pris et sur les rapports que nous entretenons avec les lieux que nous traversons, en insistant, puisque le colloque nous y invite, sur la dimension affective de ce rapport. Il s'agit, autrement dit, de passer du sentir au saisir. Et pour commencer, donc, je vais essayer de montrer que le saisir est toujours dans un rapport complexe avec le sentir. Et je partirai d'un cours, pour le faire, d'un court extrait d'une nouvelle d'Edgar Poe qui a été publiée en 1839. Et elle a été traduite par Baudelaire en 1857, publiée dans Les Nouvelles Histoires Extraordinaires. La nouvelle s'intitule « La chute de la maison Usher ». Et on peut lire ceci. « Pendant toute une journée d'automne, journée fuligineuse, sombre et muette, où les nuages passaient lourds et bas dans le ciel, j'avais traversé seul et à cheval une étendue de pays singulièrement lugubre et enfin, comme les ombres du soir approchaient, je me trouvais en vue de la mélancolique maison Usher. Je ne sais comment cela se fit, mais au premier coup d'œil que je jetais sur le bâtiment, un sentiment d'insupportable tristesse pénétra mon âme. Rien qu'à voir la maison et la perspective caractéristique de ce domaine, les murs qui avaient froid, les fenêtres semblables à des yeux distraits, j'éprouvais cet entier affaissement d'âme qui, parmi les sensations terrestres, ne peut se mieux comparer qu'à l'arrière-rêverie du mangeur d'opium à son navrant retour à la vie journalière, à l'horrible et lente retraite du voile. C'était une glace au cœur, un abattement, un malaise, une irrémédiable tristesse de pensée qu'aucun aiguillon de l'imagination ne pouvait raviver ni pousser au grand. Qu'était donc ? Je m'arrêtais pour y penser. Qu'était donc ce je ne sais quoi qui m'énervait ainsi en contemplant la maison Usher ? C'était un mystère tout à fait insoluble et je ne pouvais pas lutter contre les pensées ténébreuses qui s'amoncelaient sur moi pendant que j'y réfléchissais. Je fus forcé de me rejeter dans cette conclusion peu satisfaisante qu'il existe des combinaisons d'objets naturels très simples qui ont la puissance de nous affecter de cette sorte et que l'analyse de cette puissance gît dans des considérations où nous perdrions pied. Alors voilà, que nous dit ce passage ? Que les lieux provoquent en nous des affects, les lieux sont sentis et au moment où nous tentons de saisir ce qui est en jeu dans ce sentir, il nous paraît comme un mystère tout à fait insoluble. Nous sentons les lieux et en même temps nous sentons que ce sentir déborde notre capacité à le saisir. D'où le conflit dès que nous prétendons saisir ce que nous avions pourtant très spontanément senti. Du fait de cette limitation du comprendre par rapport à ce qu'il prétend comprendre, une tension s'instaure donc entre sentir et saisir. Et c'est ici qu'intervient Gaston Bachelard parce qu'il fait partie de ceux qui ont parfaitement repéré cette tension fondamentale. Son épistémologie, d'ailleurs, se développe successivement, je l'ai indiqué rapidement tout à l'heure, sur les deux terrains du sentir et du saisir. Je dis son épistémologie, mais c'est là une façon de parler parce que ça n'est pas seulement son épistémologie à lui, c'est l'épistémologie de quiconque se penche sur la question de savoir comment nous en venons à saisir quelque chose que nous avons senti. Nous ne pouvons saisir que ce que nous avons d'abord senti, cependant nous ne saisissons jamais la totalité de ce que nous avons senti. Une part parfois très grande de ce senti constamment nous échappe. Et Bachelard remarque que le lieu possède deux caractéristiques que l'espace ne possède pas. Et c'est là que s'introduit cette distinction entre lieu et espace. Il possède, le lieu, une atmosphère et il possède une histoire. C'est en raison de ces caractéristiques qui émane du lieu une certaine tonalité affective. Alors je reviendrai sur ce concept qu'on trouve développé chez Bolneux, mais restons un moment avec Bachelard. L'espace est l'indication d'un volume neutre dans lequel tous les événements peuvent indifféremment se dérouler. Le lieu désigne un volume, mais tonalisé par des qualités sensibles, odeur, couleur, chaleur, le vent, le bruit de la pluie, la présence matérielle des objets, la présence visuelle du ciel, etc. Certains architectes, certains urbanismes sont plus que d'autres sensibles à cette propriété qu'ont les lieux d'être associés à une humeur, mais tous le savent. Une barre de HLM ne met pas dans la même humeur qu'un palais baroque. Une salle de théâtre ne met pas dans la même humeur qu'un hall de gare. Un aéroport ne met pas dans la même humeur qu'une église. Une bibliothèque ne met pas dans la même humeur qu'une mairie, etc. Et ce que je dis là vaut aussi pour les espaces naturels. Un champ de blé ne met pas dans la même humeur qu'un verger en fleurs. La côte déchirée du littoral breton ne met pas dans la même humeur que celle incertaine de la Camargue, etc. Ce que nous décrit Edgar Poe et que Bachelard, lui, cherche à thématiser, ce sont les affects provoqués par les lieux dans lesquels nous séjournons. Au moment d'analyser ce phénomène, nous nous heurtons immédiatement à plusieurs difficultés et à un paradoxe. L'ambiance d'un lieu n'est pas déterminée de façon univoque. Elle change en fonction de l'état de celui qui est immergé, en fonction des souvenirs qu'il garde de ce lieu, etc. Et surtout, l'ambiance est un tout, une totalité. Toute décomposition de l'ambiance, par conséquent, va nécessairement altérer cette même ambiance, d'où la difficulté d'entreprendre une analyse de l'ambiance. Et là, donc, se situe le paradoxe, parce que analyser l'ambiance va impliquer de décomposer le phénomène. On peut essayer de se détourner du problème par des analyses statistiques. Il ne reste pas moins que lorsqu'on cherche à accéder au phénomène de l'ambiance lui-même, eh bien, on rencontre constamment cette difficulté qui est qu'on cherche à aborder quelque chose qui se donne comme une totalité. Mais à défaut d'analyser des ambiances de lieu, peut-être peut-on tout de même les caractériser. Dans l'extrait de La chute de la maison Usher, nous repérons ces deux caractères de l'ambiance et du lieu. Le lieu possède son mystère propre, sa tonalité affective spécifique, mais cette dernière est aussi déterminée par la tonalité affective dans laquelle se trouve le cavalier. J'emploie ici cette expression de tonalité affective, donc sur laquelle j'ai dit que je reviendrai. Ce terme traduit le mot allemand « Stimmung », qui signifie l'accord affectif avec une situation, avec un environnement, avec éventuellement un lieu. Pour Novalis, qui emploie beaucoup ce terme, donc l'un des premiers romantiques allemands, la Stimmung est un principe vital. On peut traduire le mot par « humeur », certains le font, mais le traduire par « tonalité affective » permet de conserver la dimension sonore que contient le mot allemand « Stimme », qui signifie la voix, mais la voix au sens vocal du terme. Comme ce sera le cas plus tard du mot « empathie », « Stimmung » désigne la façon dont les espaces résonnent et résonnent en nous, hein, résonnent au sens phonique du terme, mais aussi résonne au sens de raisonner, de faire des raisonnements, hein, puisque nous raisonnons d'une façon différente selon les lieux aussi dans lesquels nous nous trouvons. Pour Novalis, ce qui importe avant tout, si on souhaite décrire notre situation dans le monde, est d'accéder à une description de notre disposition thymique ou notre état d'âme. Et c'est ça qu'il appelle donc la Stimmung. Alors, dans le livre que Bolneux consacre à cette notion, qui s'appelle précisément « Les tonalités affectives », il écrit ceci. « Les tonalités affectives vivent encore dans l'unité indivise du moi et du monde. Unité les maintenant tous les deux dans une teinte de tonalité affective commune. C'est pourquoi, ajoute-t-il, c'est une erreur d'attribuer à la tonalité affective un caractère exclusivement subjectif et de croire qu'elle déteint ensuite, en quelque sorte, sur le monde. De ce point de vue, ce n'est pas non plus une transposition postérieure purement métaphorique, mais c'est une désignation directe, originelle, je crois qu'il faut souligner le mot originel, que d'attribuer aussi une certaine tonalité à un paysage. La signification philosophique de la tonalité affective réside précisément dans le fait qu'elle plonge dans la couche où sujet et objet forment encore une unité originelle, donc par-delà la distinction qui va de soi pour la conscience théorique. Alors, moi, ce qui me paraît intéressant et important dans ce que note ici Bolneux, c'est qu'il nous dit que lorsque nous disons, ou lorsque dans le passage de Pau, nous lisons que les fenêtres ont froid, par exemple, on pourrait croire que c'est une métaphore. Non, ce n'est pas une métaphore, c'est le fait de se rapporter à ce moment originaire dans lequel l'être ne se distingue pas encore, n'a pas encore fait le partage entre ce qui relève de lui-même et ce qui relève de son environnement. Alors, dernier point, si j'ai encore quelques petites minutes, Zumthor, Peter Zumthor, donc architecte contemporain, a publié un livre en 2006 qui s'intitule « Atmosphère ». Et dans ce livre, il commence par faire un rapprochement, à mon avis extrêmement fécond. Il fait un rapprochement entre les lieux et les personnes. Alors, on peut dire que dans la précédente communication, il y avait ce rapprochement qui était implicitement présent, hein, puisque la ville était assimilée à la personne de la mère. Mais Zumthor le pose comme une sorte de principe permettant de comprendre ce qui est en jeu dans notre rapport au lieu. Et ce principe, eh bien, il passe par un intermédiaire. Cet intermédiaire, c'est précisément la tonalité affective ou l'atmosphère d'un lieu. L'atmosphère d'un lieu qui, selon Zumthor, existe tout autant que l'atmosphère des personnes. Autrement dit, lorsque nous rencontrons une personne, lorsque nous croisons une personne, a fortiori lorsque nous discutons avec elle, nous saisissons une ambiance qui est produite par sa présence, par son être. Et de la même façon, lorsque nous sommes dans un lieu, nous éprouvons une ambiance. Et pour lui, le fait d'établir ce parallèle permet de penser un certain nombre de choses qui restent difficiles à saisir tant qu'on ne l'a pas établi. Alors, c'est un parallèle qui peut paraître curieux, parce qu'après tout, il y a aussi beaucoup de choses qui distinguent le lieu de la personne. Je peux, par exemple, voyager avec une personne, je peux envisager un déplacement, alors que les lieux, par définition, restent à leur place. Précisément, je me déplace pour aller d'un lieu à un autre. Par ailleurs, les personnes ont la particularité de se modifier en fonction de mon comportement à leur égard, alors que les lieux, bien sûr, changent d'atmosphère selon le temps qu'il fait, selon l'heure du jour, etc. Mais ça n'est pas moi qui induit leur changement, ça n'est pas mon comportement à leur égard qui les fait changer. Donc il y a toute une série de points qui pourraient être mis en évidence, qui font apparaître des différences, et pourtant, il me semble que le rapprochement n'est pas vain et n'est pas arbitraire non plus. Et ce rapprochement, il se comprend dès lors qu'on passe donc par ce concept qui concerne les deux, qui est le concept d'ambiance. Alors je voulais passer, je ne vais pas le faire parce qu'on n'a pas le temps, mais je voulais passer un très court extrait d'un passage très connu, de peut-être la réplique la plus connue du cinéma français, hein, dans lequel il est question de l'atmosphère. Le passage est tellement connu qu'on en oublie souvent. Le récit, la narration au milieu de laquelle il s'insère, hein, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère, dit Arletty. Elle dit ça à Jouvet, hein, donc je crois c'est le personnage, c'est Raymond, qui l'a traité d'atmosphère, effectivement, qui a dit « mon atmosphère, c'est toi ». Et je veux changer d'atmosphère. J'en ai marre de cette atmosphère que tu fais régner autour de moi. Voilà, il a dit quelque chose de trop vrai pour qu'elle puisse le supporter. Au passage, là encore, si on reprend La séquence, elle vient de faire remarquer qu'il lui avait donné un coup de poing dans la figure. Hein. C'est tout à fait politiquement incorrect comme passage. Le coup de poing dans la figure, c'est pas très grave, mais être traité d'atmosphère, alors ça, c'est insupportable. Et elle est donc traitée d'atmosphère, mais si on suit la pensée ce qu'exprime la pensée de Jouvet à ce moment-là, pensée de Raymond, eh bien nous avons quelque chose de très significatif sur ce qui émane des personnes comme des lieux. Alors pour terminer avec tout ça et pour peut-être ouvrir la discussion sur des thèmes que j'avais prévu d'aborder, mais je vois que je n'aurai pas vraiment le temps, je voudrais juste évoquer la différence en partant de ces trois éléments que j'ai, ces trois idées que j'ai récupéré chez ces trois auteurs, Bolno, Bachelard, Zumthor. Je voudrais juste mettre en place un problème qui a déjà été évoqué ce matin, hein, à travers la question des espaces cérébraux dans lesquels se déroulent ces phénomènes électrochimiques qui sont d'une certaine façon l'être de nos sentiments, de nos affects, mais qui ne sont pas des lieux. Il y a qui s'oppose, au moins depuis Bachelard, et on pourrait remonter, faire la généalogie de cette problématique, mais en tout cas, il y a tout un champ de discussion qui s'est ouvert autour de la question de savoir si les affects étaient liés aux lieux dans lesquels nous évoluons, ou bien s'ils étaient liés aux régions cérébrales qui sont activées par tel ou tel mécanisme neuronal, ou si ça n'est pas encore les deux phénomènes qui sont en jeu. On a bien sûr plutôt tendance à aller vers cette solution-là, mais ça signifie aussi que pour ce qui concerne l'espace cérébral, je l'appelle espace cérébral pour ne pas dire lieu cérébral, mais comme vous savez, le plus souvent on parle de localisation cérébrale, c'est le terme, disons, le plus couramment employé, eh bien, ces localisations cérébrales semblent correspondre à quelque chose qui n'est ni tout à fait l'espace abstrait de la physique, l'espace sans qualité sensible, ni tout à fait l'espace du lieu dans lequel nous évoluons. C'est une notion dont il faudrait définir le statut. Voilà, je vous remercie de votre attention.